France Culture. France Culture, question du soir, Matteo Caranta.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Question du soir consacrée ce soir à Taïwan. Cela devait être une grande révocation pour laisser les mains libres au président et à son gouvernement. Ça a tourné à la douche froide électorale. Je ne vous parle pas de la France, mais bien de Taïwan. Ce samedi, les électeurs ont massivement rejeté les référendums révocatoires visant 24 députés du Kuomintang, le parti historique de l'île, désormais principal parti d'opposition. Le pays s'enfonce un peu plus donc dans une crise politique où chaque camp tente de destituer ses adversaires via un système complexe mais légal de pétitions et de référendums avec en toile de fond la Chine continentale, négocier ou résister à Pékin. Telle est la question depuis plus de 30 ans. Alors, quelle posture adopter ? La politique taïwanaise est-elle piégée par la question chinoise ? Quelles sont les lignes de fracture et de concorde qui animent la société taïwanaise ? Taïwan, combien de divisions ? C'est le sujet que nous allons débattre ce soir avec nos trois invités. Avec nous pour en parler, Mathieu Duchâtel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des études internationales et expert résident de l'Institut Montaigne. Merci d'être avec nous ce soir. Également avec nous, mais à distance depuis Taïwan, Alexandre Gandil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes post-doctorant à l'université Bordeaux-Montaigne, docteur associé aux séries à Sciences Po, et vous avez publié votre thèse devenue livre « Kinmen, un archipel entre Taïwan et la Chine » aux éditions Cartala, c'était en septembre 2024. Également à distance, également depuis Taïwan, Valérie Niquet, bonsoir.
Bonsoir, mais je ne suis pas à Taïwan.
Alors, vous n'êtes pas à Taïwan, mais bienvenue quand même dans Question du soir. Vous êtes responsable, en tout cas, du Pôle Asie pour la Fondation pour la Recherche Stratégique. Taïwan face à la Chine, c'était la dernière réédition en 2025 de votre livre aux éditions Talendier. Merci à vous trois d'être avec nous. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h.
J'ai voté aujourd'hui en faveur de la révocation parce que je pense que Taïwan se trouve à un moment critique qui concerne l'avenir de notre nation et la manière dont nous faisons face à notre ennemi le plus redoutable, un ennemi qui est très proche de nous.
C'est tout simplement déraisonnable. Utiliser un seuil aussi bas que 25% pour destituer des parlementaires qui sont élus à l'origine avec plus de 50% des voix est extrêmement injuste.
C'est un honneur inégalé d'assister à cette mobilisation citoyenne sans précédent. L'amour pour Taïwan naît de la volonté de résister à l'agression et de protéger notre île. Les résultats du vote sont désormais connus. Nous acceptons toutes les formations politiques. Nous devons tous tirer de ce processus une occasion de réfléchir posément et de nous renouveler. Le Parti progressiste démocrate continuera de défendre la démocratie et de protéger nos concitoyens.
Aujourd'hui, notre peuple a montré sa maturité en utilisant les bulletins de vote. Le peuple taïwanais est mature et la démocratie taïwanaise est grandiose. Ensemble, nous protégeons notre démocratie, nous protégeons Taïwan et nous savons que nous ne pouvons pas tout bouleverser. Arrêtons d'entretenir continuellement les luttes stériles. Concentrons-nous réellement sur l'économie. Travaillons sérieusement. Que ces querelles politiques s'arrêtent, c'est là la véritable volonté du peuple.
Voilà pour la volonté du peuple, selon Eric Chou, le président du parti Kuomintang, parti d'opposition, qui a réussi un petit peu à se sortir de la situation peut-être périlleuse dans laquelle il se trouvait. Pour commencer cette émission que nous dédions ce soir à Taïwan, Mathieu Duchâtel, peut-être pouvez-vous nous expliquer l'enjeu qui se trouvait derrière ce vote. On parle souvent de Taïwan comme un élément géopolitique entre d'immenses puissances, la Chine d'une part, les États-Unis, d'autre part. En l'occurrence, là, on va tenter aujourd'hui, avec Alexandre Gandil, vous-même et Valérie Niquet, d'y voir un peu plus clair aussi sur les enjeux politiques que traverse l'île. Alors, d'où vient, qu'est-ce que c'est que ce vote révocatoire et quels étaient les enjeux derrière celui-ci ?
Alors d'abord, merci et vous avez tout à fait raison, il y a des enjeux intérieurs à Taïwan qui ont un impact très fort sur les relations de Taïwan avec la Chine continentale, avec les États-Unis, et c'est vraiment précieux de pouvoir consacrer du temps à la vie politique taïwanaise. Il y a un élément de contexte qui est absolument crucial, c'est qu'on est depuis 2024 dans une situation où le nouveau président élu, donc Lai Ching-te, ne dispose pas d'une majorité parlementaire. Il faut 58 voix pour obtenir une majorité présidentielle dans ce Parlement avec 113 députés. Le Parti démocrate progressiste, son parti, n'en a aujourd'hui que 51. L'opposition, le Kuomintang, qui était visé par ces destitutions, en a 52 et il y a deux indépendants et un parti allié qui, avec le Kuomintang, forment une majorité contre l'exécutif. C'est pas une aberration dans l'histoire de la démocratie taïwanaise, ça s'est déjà produit, déjà quand un président du Parti démocrate progressiste était au pouvoir entre 2000 et 2008, mais ça crée des blocages extrêmement forts à l'action de l'exécutif.
Alors, on dit, pour, peut-être pour aider les électeurs, on dit qu'à Taïwan, les gens votent pour des couleurs et pas pour des partis. En l'occurrence, le Parti démocrate progressiste taïwanaise, ce sont les Verts, si je ne me trompe pas.
Oui, alors tout à fait, on parle de clivage à Taïwan entre les Verts et les Bleus. C'est pas du tout un clivage droite-gauche. Je pense que cette opposition droite-gauche ne fonctionne pas vraiment pour comprendre la démocratie taïwanaise. C'est un clivage autour de sujets liés à l'identité nationale de Taïwan, qui est soit purement taïwanaise, hein, c'est le message qui est poussé avant tout par le Parti démocrate progressiste, par les Verts.
Donc par le parti du président.
La majorité présidentielle, par le président. Soit, donc pour les Bleus, une identité qui est plus inclusive de l'identité chinoise, donc à la fois chinoise et taïwanaise. Et bien sûr, en plus de cette question identitaire, il y a le sujet de la nature de la relation entre Taïwan et la Chine, qui fait l'objet d'un clivage très fort.
Alors, Alexandre Gandil, on l'a compris, un président bloqué d'une certaine manière par le yuan législatif, c'est-à-dire le parlement taïwanais, avec un pouvoir législatif qui s'oppose au pouvoir exécutif, et donc des pétitions qui elles-mêmes peuvent produire des référendums avec un système de barème. Quelles sont les accusations qui ont été portées contre les députés qui se sont retrouvés dans ce référendum révocatoire de samedi? Je rappelle qu'aucun des 24 députés n'a finalement été révoqué. Quelles sont les accusations que l'on porte à ces députés du Kuomintang?
Oui, alors je m'inscris dans la continuité de ce qu'a dit Mathieu Duchâtel sur la politique de blocage systématique des réformes proposées par le Parti démocrate progressiste, donc l'obstruction parlementaire provoquée par le Kuomintang. Mais il y a deux autres enjeux qui ont mobilisé une partie de l'opposition et de la population taïwanaise et qui ont abouti donc à lancer cette procédure de révocation massive d'élus du Kuomintang. Ce qui a été matière à indignation, ça a été une tentative de redéfinition de l'équilibre des pouvoirs au profit du Kuomintang. Et ça prend deux formes. D'abord, un renforcement des pouvoirs du Parlement au détriment des autres pouvoirs, donc l'exécutif et le judiciaire, par exemple en tentant de s'octroyer des pouvoirs d'enquête très étendus et en parvenant à paralyser la Cour constitutionnelle. Et puis aussi, cette redéfinition de l'équilibre des pouvoirs, elle s'est jouée avec une augmentation de la part des recettes de l'État central versées aux exécutifs locaux, des exécutifs locaux qui sont majoritairement aux mains du Kuomintang. Alors, cette redistribution des recettes, ça peut peut-être paraître relativement anodin, mais ça me permet aussi d'aborder un autre enjeu qui a cristallisé ce mouvement d'opposition au Kuomintang, un enjeu qui est pas nouveau et qui se pose avec en fait d'autant plus d'acuité dans le contexte actuel. C'est que l'État central, en étant privé d'une partie non négligeable de son budget, ça a pu entraîner des coupes importantes dans les politiques nationales et notamment les politiques de défense. Et ça, c'est absolument pas anodin dans le contexte actuel de démonstration de puissance et d'intimidation de la République populaire de Chine dans le détroit de Taïwan. Et puis, dans un contexte aussi où l'administration Trump enjoint très fortement Taïwan à se donner des moyens supplémentaires d'assurer sa défense. Et donc, par conséquent, les députés de la majorité parlementaire sont accusés par leurs détracteurs d'être trop accommodant vis-à-vis de Pékin et du Parti communiste chinois, si ce n'est en fait de vouloir vendre Taïwan à la Chine.
Donc on le voit, hein, d'un côté un parti présidentiel réduit et limité, qui serait plutôt indépendantiste, plutôt autonomiste, et le Kuomintang, le parti historique de Taïwan, je le rappelle, qui lui serait perçu comme un parti à la solde de Pékin. Valérie Niquet, c'est étonnant parce que le Kuomintang ici est perçu comme pro-chinois, mais Historiquement, c'est bien le Kuomintang qui était le parti de Chiang Kai-shek et qui a pris la fuite après la déclaration de la République populaire de Chine en octobre 49, qui installe à Taïwan un nouveau gouvernement. Comment est-ce que vous expliquez ce retournement politique de ce parti central de l'histoire taïwanaise?
Alors, le Kuomintang de Chiang Kai-shek, en effet, a longtemps eu comme ambition de reconquérir le continent et il tentait de se préparer à cela, avec évidemment beaucoup, très peu d'espoir d'y parvenir, même lorsque la Chine était peu développée. Mais le Kuomintang de Chiang Kai-shek et le Kuomintang d'aujourd'hui ont un point en commun qui plaît à Pékin, qui est de considérer que Taïwan fait sous une forme ou sous une autre, et culturellement notamment, partie de la Chine, historiquement. Et donc, c'est cette position partagée par le Kuomintang historiquement et aujourd'hui qui fait que Pékin préfère le Kuomintang, plus le parti nationaliste, hein, celui qui, dont le premier président de la République de Chine, à Taïwan, en fait, c'est toujours la République de Chine qui a été instaurée en 1912. Et donc, ce parti nationaliste est celui qui, pour Pékin, est le plus à même d'aboutir à une solution qui, selon la Chine, est relativement simple. Il s'agirait tout simplement pour la Chine de reconnaître, pour Taïwan, pardon, de reconnaître qu'il fait partie de la Chine. Et ensuite, en théorie, selon Pékin toujours, tout irait parfaitement dans le meilleur des mondes. Évidemment, on a vu ce qui s'est passé à Hong Kong, même si la situation n'est absolument pas la même. Il n'y a aucune garantie, même avec les principes chinois de un pays, deux systèmes qui intégrerait Taïwan, un Taïwan qui se reconnaîtrait chinois pour que cela fonctionne. Par ailleurs, le parti qu'on dit indépendantiste n'est pas véritablement indépendantiste, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement conscients du danger qu'il y aurait à déclarer l'indépendance de Taïwan. En revanche, effectivement, la grosse différence avec le Kuomintang, c'est qu'ils refusent a priori de considérer que Taïwan fait partie de la Chine.
Mathieu Duchâtel, qu'est-ce que répondent les élus du Kuomintang à ces accusations? On sait que certains élus du Kuomintang ont rendu des visites à Pékin, ont rencontré le bureau idéologique du Parti communiste chinois. Comment est-ce qu'ils répondent auprès des électeurs à ces accusations qui les touchent?
Alors d'abord, je crois qu'il faut voir que le Kuomintang est historiquement le parti de la défense, de la survie à Taïwan, de la République de Chine, qu'ils ont, comme vous l'avez dit, amené jusqu'à l'île de Taïwan. Et que ça, c'est le point de départ qui reste absolument crucial pour comprendre le Kuomintang, et que cette défense des institutions de la République de Chine à Taïwan doit s'appuyer avant tout, c'est ce qu'a fait le Kuomintang quand il était au pouvoir, en particulier pendant la guerre froide, sur une relation de défense très approfondie avec les États-Unis. C'était une alliance jusque dans les années 70. Ce qui s'est passé ces 20 dernières années, c'est que cette position de départ s'est un petit peu érodée du fait du rapprochement économique très fort entre Taïwan et la République populaire de Chine, et qu'on a eu une présidence Kuomintang entre 2008 et 2016, donc la dernière en date dans l'histoire de la démocratie taïwanaise, avec Ma Ying-jeou comme président de la République de Chine à Taïwan, qui est parti de ce point de départ-là, la défense des institutions de la République de Chine, la défense de la démocratie à Taïwan, mais qui a poussé très fort un agenda d'intégration économique avec la Chine, avec l'idée que le Kuomintang était le parti qui pouvait négocier un espace pour les entrepreneurs taïwanais sur le sol chinois. Et cette négociation, donc qui implique des deux côtés du détroit des officiels gouvernementaux pendant cette période-là, a été vue par la Chine comme un moyen, finalement, d'aboutir progressivement à une unification politique. Et aujourd'hui, on en est dans une phase sans doute nouvelle dans l'histoire du Kuomintang, où on a ce nouveau clivage en interne dont il est un peu difficile de savoir qui domine aujourd'hui, parce que les positions sont encore un peu floues, étant donné qu'il y a une crise de leadership au Kuomintang. Vous avez cette position de défense de la survie à Taïwan de la République de Chine en collaboration avec les États-Unis qui reste, mais vous avez aussi de plus en plus l'idée qu'une forme de négociation politique qui amène à Taïwan des avantages économiques, qui pourrait accepter peut-être des concessions sur le plan politique, est la seule forme acceptable pour éviter un conflit militaire avec la Chine. Et ça, ça a été révélé par l'élection présidentielle de 2024, où le Kuomintang a tenté, et alors a échoué, mais a tenté de remporter la victoire à l'élection présidentielle avec un nouveau message autour de « Nous, nous sommes le parti de la paix, on est capable de négocier un espace de survie pour Taïwan en évitant d'aller à la confrontation ».
Alexandre Gandil, comment est-ce que ont été présentés les résultats localement? Quelle était l'ambiance avant et après les élections? Est-ce que c'est aussi central qu'on l'a présenté ici depuis l'Europe pour la société taïwanaise?
Alors oui, ça a été central. Le fait est qu'en Europe, on s'est surtout intéressé à ce point d'acmé, à ce scrutin qui s'est tenu samedi, mais qui est en fait l'aboutissement d'une procédure de plusieurs mois. Alors ce processus de révocation des élus. En réalité, c'est pas simple de révoquer des élus à Taïwan. Là, il y avait 24 députés qui étaient concernés, tous du Kuomintang, mais il faut se rendre compte de tout le processus qui a conduit à la tenue de ce scrutin. Donc, le scrutin, c'est la troisième et dernière étape du processus. Il faut d'abord, au sein d'une circonscription, rassembler les signatures d'1% des électeurs. Et cette procédure peut être lancée un an au plus tôt après l'élection. Donc c'est pour ça que la procédure a été lancée cette année en janvier 2025. Et les signatures doivent être validées par la commission électorale centrale. Puis, après cette première étape, une fois que les signatures ont été validées, il faut rassembler en 60 jours les signatures de 10% des électeurs de la circonscription. Et c'est des signatures manuscrites qu'il faut. Il faut remplir un formulaire de la commission électorale centrale, pas des signatures électroniques. Donc il faut fournir aussi une copie de sa pièce d'identité. Et ça, c'est une mesure qui a été ajoutée par le Kuomintang à la fin de l'année dernière. Donc il faut se rendre compte que ça demande un très grand effort de mobilisation hein, au sein de la circonscription, un démarchage continu avec des milliers de courriers à cacheter, à déposer dans les boîtes aux lettres et la tenue de permanence pour recueillir les signatures, etc. Donc, pour parvenir à l'organisation d'un scrutin, il faut avoir développé un énorme effort de mobilisation en amont et un effort à reproduire pour chaque scrutin. Et en fait, il s'en est tenu 24 samedi, mais il s'en tiendra 7 autres
le 23 août prochain.
Exact.
Est-ce que on connaît un peu la sociologie du vote à Taïwan, Alexandre Gandil, sans entrer dans un degré de détail au grain près, mais est-ce qu'il y a une séparation qui se fait toujours autour de la question chinoise? Est-ce qu'il y a une séparation électorale entre la jeunesse, par exemple, et les personnes les plus âgées, entre les classes sociales? Quelles sont les autres grilles de lecture qui permettent de comprendre les oppositions politiques en ce moment à Taïwan?
Alors pour ça, il faut revenir à ce qu'avaient dit Mathieu Duchâtel et Valérie Niquet en début d'émission sur la structuration en fait du paysage politique et de l'échiquier politique taïwanais, qui est donc un échiquier politique bipartisan. Et ce qui différencie un parti de l'autre, c'est pas comme dans d'autres régimes démocratiques un clivage gauche-droite ou par exemple un clivage entre centre et périphérie. Et là, je reprends la formulation de Françoise Mangin, c'est un clivage qui, on en revient, qui s'articule autour du statut et du futur statut de Taïwan. Donc avec d'un côté le Kuomintang qui refuse de renoncer à une réunification avec le continent dans la perspective où le continent se démocratiserait. Et de l'autre côté du spectre, on a le Parti démocrate progressiste qui refuse de renoncer à une indépendance de jure à terme, c'est-à-dire à la proclamation d'une république de Taïwan, distincte de la République de Chine, dans la perspective où la Chine renoncerait à l'usage de la force. Et ça, ensuite, ça se décline en une myriade de partis politiques possibles.
Mais donc, c'est toujours la question, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est toujours la question chinoise qui devance toutes les autres lignes possibles de fracture. Je vois que Mathieu Duchâtel souhaiterait réagir, mais rapidement, Alexandre Gandil.
Oui, la question de la Chine est surdétermine l'échiquier politique taïwanais. Néanmoins, aux élections présidentielles de 2024, il y a eu la candidature donc d'un troisième personnage hors du candidat Kuomintang et du candidat du Parti démocrate progressiste. Il y avait le candidat du Parti du peuple taïwanais, qui est un parti relativement récent, qui a été fondé en 2019 et qui s'est lui positionné sur des enjeux de société en voulant se distinguer des deux autres partis et sortir de ce clivage justement qui s'articule non pas exclusivement mais prioritairement autour du statut de Taïwan et qui a remporté tout de même plus de 20% des suffrages.
Le parti du peuple taïwanais qui a donc ajouté une couleur après les verts du parti du progrès de Lai Ching-te, les bleus du Kuomintang, désormais les blancs du parti du peuple taïwanais, dont l'une des figures, je le précise, et peut-être cela participe à renforcer l'aspect critique de la crise politique en cours, l'une des figures, Ko Wenji, est en ce moment poursuivie pour corruption. Mathieu Duchâtel, vous souhaitiez réagir sur ces autres grilles de lecture, ces autres tensions politiques qui animent Taïwan aujourd'hui?
Oui, parce que, comme l'a dit Alexandre Gandil, on a vu ces dernières années, et en particulier pendant l'élection de 2024, qu'il y avait un espace qui se créait pour une forme de troisième voie politique à Taïwan qui précisément rejetait ce clivage. Et ce rejet d'une vie politique taïwanaise très polarisée, très organisée autour du futur statut de Taïwan, de la nature de la relation avec la Chine, on le trouve surtout parmi les jeunes générations. Et c'est pour ça que ce vote TPP, Kuomintang, ce vote pour les Blancs, pour reprendre des couleurs, a obtenu des scores quand même très appréciables pendant cette élection de 2024. C'est qu'on a toute une frange de la population qui aimerait bien parler d'autre chose et qui a été attirée par une campagne qui portait purement sur du pragmatisme, avec très peu de positions de politique publique, mais avec l'idée justement qu'il fallait juger des enjeux de politique publique, non pas à chaque fois à la lumière des relations avec la Chine, ou de questions idéologiques ou identitaires, mais de leur mérite propre. Et même si cette force politique...
Quelles sont-elles ces questions? C'est quoi? C'est l'immobilier, la question énergétique, c'est...
Ah bien sûr, la question des salaires, la question de l'immobilier, de l'accès à la propriété sont des questions très importantes. Il y a un sujet aussi qui a beaucoup émergé dans cette campagne pour les destitutions de députés, qui est celui finalement du rejet d'une politisation à l'extrême de tout sujet politique autour de la question de la défense de Taïwan contre les pressions chinoises. Alors, les pressions chinoises sont extrêmement fortes, mais les critiques de l'exécutif estiment qu'il y a une politisation permanente de cette question qui ne laisse pas suffisamment d'espace pour se concentrer sur des sujets plus pratiques.
De quel œil, avec quel regard, avec quelle action ou activité, Valérie Niquet, est-ce que Pékin a regardé ce vote et toute la séquence politique que nous décrivons depuis le début de l'émission?
Alors, Pékin a regardé évidemment le vote initialement avec un certain élément d'inquiétude, et si le Kuomintang avait été fortement rejeté, ce qui n'a pas été le cas, peut-être avec une pointe de triomphalisme, mais quoique pas tant exprimé que ça au vu des résultats actuels. Et ce qui est certain, c'est que Pékin suit de très près les évolutions politiques internes à Taïwan, espère un basculement politique lors des prochaines élections. C'est un jeu que Pékin suit depuis des décennies maintenant et intervient très régulièrement aussi, même si, encore une fois, tout mettre sur le dos, entre guillemets, de Pékin finit par agacer d'une certaine manière aussi l'électorat taïwanais. Il est certain que la Chine utilise énormément de moyens d'influence, notamment sur les réseaux sociaux, ça a été documenté, pour tenter d'influencer les votes et la désinformation qui accompagne ces élections à Taïwan. Donc, effectivement, Pékin est profondément engagé dans l'évaluation fine et permanente de la politique intérieure taïwanaise, parce que au-delà des discours sur la entre guillemets réunification que la Chine souhaite sans doute à l'horizon 2049, même si finalement il n'y a pas de date précise qui ait jamais été dite, pour Pékin bien sûr la solution la moins coûteuse serait ce qu'on appelle la réunification pacifique, qui est toujours mise en avant, et non pas une éventuelle conquête militaire très incertaine. Et cette réunification pacifique, selon Pékin, passe notamment, comme l'a indiqué Mathieu Duchâtel en particulier, par la séduction des élites taïwanaises et notamment des élites économiques, ce qui avait été assez longtemps le cas avant le choix beaucoup plus agressif d'une stratégie affirmative de la part de Xi Jinping. Mais c'est vrai que que les années précédentes, lorsque la Chine apparaissait comme une opportunité auprès des entrepreneurs taïwanais, et notamment des petites et moyennes entreprises très massivement installées en Chine, tout ça, dans l'esprit de Pékin et avec un certain réalisme, en fait, pouvait laisser espérer l'émergence d'une convergence, en tout cas sur l'idée, toujours cette idée qu'il n'y a finalement qu'une seule Chine et que Pékin en fait partie, même si les deux côtés ont toujours été en désaccord sur ce que devait être cette Chine. Donc oui, Pékin est très très attentif aux évolutions politiques internes à Taïwan. Le risque pour Pékin serait de voir un processus de démocratisation tel qu'il s'est produit, aboutissant à une situation de non-retour. Et c'est un peu le cas aujourd'hui, finalement, puisque la très grande majorité de la population taïwanaise, y compris d'ailleurs ceux qui sont favorables au Kuomintang, se sentent attachés ou d'identité taïwanaise, ou les deux. Mais en tout cas, ils sont une infime minorité à souhaiter une unification avec le continent, et particulièrement en raison de la nature du système politique qui existe en République populaire de Chine.
Mathieu Duchâtel, sur ce point de non-retour.
Alors oui, je pense que les sondages montrent effectivement, comme le dit Valérie Niquet, qu'il n'y a pas du tout de marché politique pour une unification dans la démocratie taïwanaise, qu'il y a plutôt, et en ce sens, je pense qu'on est assez loin du point de non-retour pour ce qui est des relations entre les deux rives et du risque de guerre, une population...
Le dialogue est bloqué, hein. Pékin refuse de parler avec Lai Ching-te. Le président taïwanais.
Oui, bien sûr. Alors, la communication entre les deux gouvernements est complètement bloquée aujourd'hui. La Chine mène une politique à l'égard de Taïwan qui vise surtout à délégitimer le président Lai Ching-te personnellement. Et ça, c'est une nouvelle donne dans le détroit de Taïwan. Ça explique aussi, d'une certaine manière, l'extrême anxiété de l'exécutif taïwanais vis-à-vis de Pékin. On a une politique chinoise vis-à-vis de Taïwan qui vise à faire porter la responsabilité de toutes les tensions dans le détroit de Taïwan sur les positions du président Lai en matière d'identité et de relations avec la Chine.
France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
Il s'agit d'un avertissement sévère et énergique contre les forces indépendantistes de Taïwan et d'une action légitime et nécessaire pour défendre la souveraineté nationale et maintenir l'union nationale.
En tant qu'État membre autoritaire, la Chine croit que la puissance militaire donne raison. Son obsession à résoudre des désaccords par la force militaire est la raison principale de ses exercices.
Vous êtes bien sur France Culture, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h. Il est minuit 42 à Taïwan, à laquelle nous consacrons une émission ce soir en compagnie de Mathieu Duchâtel, directeur des études internationales et expert résident de l'Institut Montaigne, d'Alexandre Gandil, qui se trouve donc au milieu de la nuit, post-doctorant à l'Université Bordeaux-Montaigne, docteur associé aux séries à Sciences Po, et Valérie Niquet, responsable du pôle Asie pour la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alors, on vient d'entendre les sons, les réactions également aux exercices militaires chinois qui se sont tenus en avril 2025. Un immense exercice militaire, peut-être le plus grand qui n'ait jamais eu lieu, s'est tenu aussi sur l'île de Taïwan en juillet dernier. Comment est-ce que la société taïwanaise réagit à cette demande d'engagement aux militaires, Mathieu Duchâtel?
Alors, il y a eu un changement assez profond ces cinq dernières années à Taïwan. Et ce changement, on peut le dater, il date d'août 2022 et des manœuvres de très grande envergure.
D'encerclement
de Taïwan au moment de la visite de Nancy Pelosi de la Chambre des représentants américaine et bien sûr, quatre mois après, le déclenchement des hostilités de très grande ampleur en Ukraine par la Russie. Là, on a bien vu que la population taïwanaise, qui jusqu'à ce moment-là considérait la guerre comme absolument impensable, commençait, alors sans que ce soit une majorité très nette, mais commençait à penser le risque de guerre de manière beaucoup plus réaliste. Il y avait des images qui nous parvenaient d'Ukraine, il y a un alignement sino-russe sur beaucoup de sujets y compris sur l'Ukraine. Et puis, il y a de la part de la Chine une détermination très forte à envoyer des signaux de coercition et de recherche d'une soumission de Taïwan par la force. Le gouvernement taïwanais est quand même pris par le jeu politique. C'est difficile pour l'exécutif taïwanais de pousser complètement dans le sens d'un budget de la défense à 5%, voire 10% du PIB, comme certains responsables américains l'ont demandé, ne serait-ce parce qu'ils ne disposent pas d'une majorité parlementaire, mais au-delà de ça, parce qu'il y a des arbitrages en matière de budget qui n'iraient sans doute pas jusque-là. Et puis parce que l'opposition, donc le Kuomintang, accuse le parti au pouvoir à chaque mesure. Et le meilleur exemple est sans doute lorsque, il y a 2 ans, le Parti démocrate progressiste a choisi d'étendre la conscription de 4 mois à 1 an. L'opposition l'accuse systématiquement de pousser à la guerre, en réalité. Donc il y a une ligne extrêmement difficile à maintenir pour l'exécutif taïwanais, pour améliorer la résilience de la société taïwanaise, dans une logique aussi de dissuasion. Si Taïwan paraît plus résiliente, plus forte, la Chine hésitera davantage à employer des méthodes militaires pour parvenir à ses fins. Mais le risque, justement, de se faire accuser et que ces accusations convainquent la population est toujours quelque chose qui, finalement, allège la main du gouvernement.
Alors, prolongation du service militaire de 4 mois à 1 an, également introduction de cours militaires dès l'école primaire. Comment est perçue cette militarisation de la société taïwanaise, Alexandre Gandil ?
Écoutez, ce qu'on remarque aussi, c'est depuis l'invasion russe de l'Ukraine, une multiplication des initiatives citoyennes en matière de formation à la défense et aux réactions à adopter en cas de potentielle invasion chinoise.
Je rappelle
donc
que
vous avez une multitude de groupes. Oui.
Je rappelle que vous avez fait votre thèse sur l'archipel de Kinmen, qui est considéré comme la Crimée taïwanaise.
Alors, qui est considéré par certains comme la Crimée taïwanaise, mais personnellement, je m'inscris à l'encontre de cette représentation, puisqu'en réalité, effectivement, donc pour que les auditeurs se rendent parfaitement compte de la situation géographique de Kinmen, c'est un archipel qui est effectivement sous contrôle de Taipei, mais qui est quasi encastré dans les côtes du continent chinois, hein, dans les côtes de la province du Fujian, en face de la ville de Xiamen. Et donc, effectivement, c'est le potentiel tremplin pour une reconquête du continent par Chiang Kai-shek et l'ancienne première ligne de défense de Taïwan contre une potentielle avancée des communistes sous la guerre froide, ce que Kinmen n'est plus en réalité aujourd'hui, puisque les lignes de projection de l'armée populaire de libération se sont déplacées vers la ligne médiane du détroit de Taïwan. Donc sur cette incitation à la préparation à une potentielle invasion chinoise, il y a certains Taïwanais qui sont d'autant plus réceptifs qu'il ne pouvait l'être il y a encore quelques années, parce que cette perspective d'une potentielle attaque de l'armée populaire de libération à travers le détroit, si il y a encore quelques années ça paraissait être un horizon extrêmement lointain et très peu tangible, c'est devenu un horizon qui s'est beaucoup plus rapproché du point de vue en tout cas des interlocuteurs avec qui j'ai pu discuter il y a 7 ans pendant mon terrain de thèse et aujourd'hui.
Il y a aussi des déclarations politiques du côté de la République populaire de Chine. D'abord, la déclaration le mois dernier de Wang Hunin, expert du Politburo chinois sur Taïwan, qui dit que la réunification est inévitable. Aussi, Xi Jinping, qui a ordonné à son ennemi, à son armée, d'être prête pour la guerre d'ici 2027. Est-ce que, pardonnez-moi cette question peut-être si franche, Valérie Niquet, est-ce que la guerre est inévitable? Est-ce que l'invasion de Taïwan n'est qu'une question de temps, selon vous, Valérie Niquet ? Et puis je vous poserai cette question à tous les trois.
Alors, évidemment, pour Pékin, cette invasion, cette réunification, pour reprendre le terme chinois, hein, puis Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine, donc c'est un terme relativement abusif, et va dans le sens de l'histoire. C'est aussi pour ça que ça prend une telle importance pour un régime qui veut absolument se positionner comme étant le régime qui a raison, en fait, en Chine. Et réunifier ou envahir ou occuper Taïwan, rattacher Taïwan à la République populaire populaire de Chine, ce serait parachever la tâche de la révolution qui s'est achevée sur le continent en 1949, mais qui n'est pas allée jusqu'au bout, selon Pékin. Même s'il faut quand même noter quelque chose, qui est que la question taïwanaise, de Taïwan faisant partie de la Chine, est relativement récente, jusque dans les années 40, y compris le Parti communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc, y compris le Parti communiste chinois et Mao Zedong n'étaient pas particulièrement attachés à ce rattachement de Taïwan au continent. Donc c'est quelque chose qui est à émerger progressivement. Et c'est vrai que dans le discours de Xi Jinping, en tout cas, eh bien, il y a un rêve chinois. Il faut bien trouver de nouvelles matières à légitimer le régime auprès d'une population qui, par ailleurs, se heurte à un certain nombre de difficultés en Chine même. Et donc, ce fameux rêve chinois qui devrait aboutir à l'horizon 2049, c'est-à-dire le 100e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, passe par la réunification. Mais il n'y a pas, encore une fois, de date précise indiquant, comme on l'entend parfois, venant des États-Unis, eh bien, un projet d'invasion en 2027. Ce qui est certain, c'est que si une opportunité se présente, un désengagement total de la part des États-Unis, Taïwan qui semble ne plus vouloir résister, eh bien, évidemment, la Chine pourrait être tentée de tenter une opération. Encore une fois, il faut savoir que ce serait extrêmement risqué. Même si on peut imaginer des opérations initiales, encore qu'avec les moyens d'observation aujourd'hui, ce soit très difficile à mettre en œuvre, eh bien, pour débarquer à Taïwan, s'il y a une opposition, y compris de la part des États-Unis notamment, c'est extrêmement difficile. Il y a pratiquement 200 kilomètres entre le continent et Taïwan. C'est bien plus large que ce qui sépare la Manche, la Grande-Bretagne du continent quand on pense au débarquement. Et ça demande des moyens logistiques en continu absolument considérables, une maîtrise de l'air, une maîtrise de la mer qu'aujourd'hui les Chinois sans doute ne sont pas certains d'avoir. Et donc ce serait prendre un risque extrêmement élevé pour un régime dont le principal objectif est tout de même la survie et qui mettrait aussi en danger tout simplement la poursuite de la croissance économique si des sanctions importantes étaient mises en place.
Mathieu Duchâtel.
Oui, alors pour moi non plus, la guerre n'est pas inévitable. D'abord, comme l'a dit Valérie Niquet, parce que ce n'est pas l'option préférée de la Chine. Elle souhaite obtenir une forme d'unification à un coût bien moindre.
Unification par la dépendance économique, en réalité.
Unification par une forme d'accord politique préparé longuement par différentes mesures, y compris la dépendance économique, mais aussi la cultivation des élites, et puis la cultivation à Taïwan du doute vis-à-vis des Américains. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien voir.
Si on dénonce beaucoup les campagnes TikTok, il y a eu des études qui ont démontré que les utilisateurs de TikTok avaient plus tendance à voter pour le Kuomintang que pour le parti du président au pouvoir.
Oui, alors on a vraiment une jeunesse taïwanaise, en particulier chez les plus jeunes, qui est très très TikTok, qui est aussi Little Red Note, Xiao Honshu, qui est vraiment uniquement pour les utilisateurs en langue chinoise, et qui sont deux applications qui, en gros, portent l'influence de la Chine dans un sens de dépolitisation, c'est-à-dire d'un désintérêt très fort pour la chose politique. Et on a l'impression que ce que cherche la Chine, c'est une jeunesse taïwanaise qui ne s'intéresse pas du tout à la politique, mais qui se concentre uniquement sur des questions d'intérêt économique et de divertissement.
Donc une guerre évitable par à la fois l'acculturation politique et la dépendance.
Dépolitisation de la jeunesse est un élément de la stratégie chinoise à l'évidence. Alors après, on a beaucoup entendu parler de 2027, mais il faut bien voir que l'idée d'une guerre en 2027, c'est un discours qui nous vient des États-Unis. Et c'est un discours qui, de la part de certaines élites militaires américaines, visait surtout à sonner l'alerte sur les capacités chinoises. Mais il y a absolument aucune indication tangible, réaliste, aucune preuve qu'il y ait un agenda chinois d'une guerre à l'horizon 2027. Le point qui, pour moi, est très préoccupant, c'est celui du risque que la Chine fasse le choix d'initier une crise. Alors, je dis initier une crise pour ne pas dire guerre, c'est pas du tout la même chose. Initier une crise, ça peut, pour la Chine, dans un horizon à plus ou moins court terme, viser à tester la détermination américaine, la détermination de Taïwan.
Tout en restant dans une zone grise, c'est ça que vous voulez dire?
Tout en restant dans une zone grise, mais elle est déjà dans une zone grise, en allant plus loin dans la zone grise, en provoquant un incident. Et je pense que ça peut se produire si la Chine calcule que la réaction américaine à une action plus forte que ce qu'on a vu ces dernières années sera finalement très mesurée et amènera l'administration Trump à demander à Taïwan de surtout ne pas répondre. Ce type de scénario irait vraiment dans l'intérêt de la Chine, qui est de convaincre les États-Unis, de convaincre Taïwan que les États-Unis sous l'administration Trump ne sont pas fiables.
C'est évidemment le troisième acteur lorsqu'on parle de Taïwan. Il y a bien sûr la Chine, il y a de l'autre côté les États-Unis. Alexandre Gandil, quelle est la position de Trump sur Taïwan? Je rappelle que le géant des semi-conducteurs, alors Taïwan est leader en semi-conducteurs dans le monde, le géant des semi-conducteurs taïwanais a déclaré qu'il allait investir 100 milliards de dollars aux États-Unis. Des usines taïwanaises vont être construites en Arizona et Taipei a exigé que les processus de fabrication les plus avancés en termes de semi-conducteurs restent dans l'île pour ne pas affaiblir sa position face à la Chine. Quelle est la position américaine et quels sont les pactes que sont prêts à passer les Taïwanais avec les Américains pour continuer à être protégés vis-à-vis de ce qu'ils considèrent comme la menace chinoise, Alexandre Gandil?
Bon, la position américaine de Donald Trump, c'est la même qu'avec celle de l'ensemble de ses alliés, c'est-à-dire qu'ils dépensent plus pour assurer leur propre défense. Et sur les semi-conducteurs, effectivement, c'est ce qu'on pourrait appeler familièrement une assurance vie du régime taïwanais. Et ça, c'est mis en avant par la diplomatie taïwanaise et dans les discours qu'on a des diplomates taïwanais dans les médias, c'est de dire que si jamais Taïwan est envahi par la Chine, il y a la production de semi-conducteurs qui va s'effondrer ou alors qui sera aux mains de la Chine et ce sera un blackout international. Sur la posture taïwanaise vis-à-vis des États-Unis, il y a des voix d'intellectuels qui s'élèvent quand même de plus en plus, qui, en regardant l'attitude des États-Unis par rapport à l'Ukraine, l'attitude des États-Unis par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, sont de plus en plus méfiants vis-à-vis d'un soutien inconditionnel ou d'un suivisme vis-à-vis des Américains. Et ça, c'est de parler de ces intellectuels, c'est aussi ce qui me permet peut-être de faire le lien entre le début de l'émission où on a parlé de ce grand vote de révocation et d'une démonstration de la démocratie taïwanaise et ce risque d'invasion par la Chine. Parce que je pense que en mettant en regard le cas sino-taïwanais avec le cas russo-ukrainien, je pense qu'on est tous familiers de cette rhétorique de la petite démocratie taïwanaise qui s'oppose au grand autoritarisme chinois. Mais je pense que c'est utile aussi pour l'analyse de regarder au-delà de ces catégories figées et on peut le dire presque manichéenne, parce que déjà à Taïwan on définit pas seulement la démocratie par rapport à l'autoritarisme voisin, celui de la République populaire de Chine, mais par rapport aussi à l'autoritarisme passé, celui d'une République de Chine qui jusqu'au tournant des années 80-90 était un régime autoritaire, et ça je reprends cette formule à la sociologue sur la bourgeois. Mais la démocratie à Taïwan,
c'est Taïwan
comme ailleurs,
vis-à-vis de son propre passé autoritaire.
De son propre... Exactement, exactement. Et la démocratie, c'est pas un blanc-seing qui exempterait toute critique parce qu'un régime coche certaines cases. C'est un idéal vers lequel tendent certaines sociétés politiques. Et on les questionne, ce qui les en rapproche et ce qui les en éloigne. Et c'est le cas à Taïwan comme ailleurs. Et ce que je veux mettre en avant ici, c'est que... le contexte de menace de la République populaire de Chine et le comportement du Kuomintang ne fait pas automatiquement du Parti démocrate progressiste, ni du président Lai Ching-te, ni de son administration des modèles parfaitement irréprochables ou impossibles à questionner au regard de l'idéal démocratique. Et ça, c'est une petite musique qu'on entend aussi de la part de certains intellectuels qui mettent en avant ce rapport, ce questionnement autour du rapport entre droit et liberté et sécurité nationale en démocratie. Et ça, c'est un débat qu'on retrouve aussi ailleurs.
Eh bien, c'est un débat que peut-être nous pourrons poursuivre dans une autre émission de Questions du soir, parce que nous arrivons à la fin de celle-ci. Merci à vous trois, Alexandre Gandil. Je rappelle que vous êtes postdoctorant à l'Université Bordeaux-Montaigne, docteur associé aux séries à Sciences Po, Mathieu Duchâtel, d'être venu venu jusqu'à Radio France, directeur des études internationales et expert résident de l'Institut Montaigne. Puis je rappelle votre livre « Géopolitique de la Chine », collection Que sais-je, au PUF. Et puis Valérie Niquet, responsable du Pôle Asie pour la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et enfin aussi votre livre « Taïwan face à la Chine ». Merci beaucoup à Maud Yaïch pour la préparation, à Louise Guérin, à la programmation, Vivian Lecuivre à la réalisation, accompagnée de Fan Montet, à la technique ce soir, Ludovic Auger. Nous, on se retrouve demain, même studio, même heure.